Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Clotilde de Brossolette.
Bonjour Nathalie.
Alors, une femme engagée, oui. Une femme avec une parole de vérité, oui. Une femme qui est une femme libre, oui, je le crois, puisque vous avez vous-même parlé de cette liberté, finalement, dans votre vie et vos engagements, vos prises de position. Alors, une femme qui accompagne aussi des élus et des candidats en politique. Et vous nous avez rappelé, et on va y revenir quelques minutes, c'est important, la question du vote. Il est important pour vous, même si le vote et le bulletin est blanc, d'aller voter. Pourquoi mettre un vote même blanc ?
Le vote blanc signifie que je me sens solidaire de l'avenir de la cité dans laquelle à laquelle j'appartiens, quelle que soit l'échelle de cette cité. C'est-à-dire que en tant que catholique, il m'est interdit par ma vocation baptismale, qui est celle d'être dans le monde, un ferment d'espérance, de dire le domaine politique est un domaine que je renie et je m'en extrais complètement. Donc en votant blanc, en fait, je signale que je ne parviens pas à faire un choix, mais que la vie démocratique reste pour moi un lieu d'espérance possible. Pas au moment où je vote, puisque je vote blanc, mais cela me concerne.
Donc il y a une posture, une attitude spirituelle
profondément
pour le chrétien.
C'est véritablement le regard que je porte sur le monde qui se joue là.
Donc,
est-ce que je me coupe réellement de la société dans laquelle je suis ?
Ou est-ce que j'appartiens encore à cette
société ? Et voilà, il est dit dans les évangiles que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc je suis dans ce monde, même si je ne lui appartiens pas. C'est l'éternel discours sur les deux patries, en fait. C'est ma patrie terrestre et ma patrie céleste. Mais ce qui se vit à l'échelle terrestre est important. Et quand je vote aussi... quand je choisis un candidat, il me semble important, pareil là encore, de convertir le regard. C'est le candidat que je vais choisir n'est pas parfait. Et donc mon vote n'est pas parfait. Et il n'y a pas un absolu du vote. Donc en choisissant tel ou tel candidat, je renonce à quelque chose. Mais nous sommes dans un monde marqué par le péché originel. Donc forcément, il n'y a pas de candidat idéal. Donc arrêtons de chercher candidat idéal. Ça ne sert à rien. L'homme providentiel... Voilà, on le disait
Il est arrivé il y a 2000 ans.
Donc ce candidat, que je vais choisir, il va répondre à une de mes urgences, à une ou deux questions qui me semblent prioritairement à traiter. Mais il va en mettre de côté d'autres. Et je vais vous donner un exemple. Je connais un jeune qui était très engagé au moment des élections présidentielles dans l'équipe de Jadot, un jeune catholique. Donc, de Yaïn Jadot, parce que pour lui, la question écologique est aujourd'hui une priorité. Et il me disait, mais sur les questions sociétales, j'ai bien conscience que Yannick Jadot ne partage pas mes opinions. Et en fait, il abordait son engagement politique avec une humilité, moi, qui m'a beaucoup marquée, parce que je pense qu'elle est très juste. Et en disant, tu vois, Clotilde, mais sur la question de l'euthanasie, la fin de vie, eh ben, j'espère un jour convaincre Yannick Jadot. Et plus humble encore, il me dit, mais j'espère surtout que lui ne me convaincra jamais. Et ça, je trouve que ça, c'est véritablement la nature de l'engagement politique tel qu'il nous est donné. Nous ne sommes pas là pour sauver le monde. Nous sommes là pour agir à notre mesure, prendre notre part. Et la part de ce garçon, c'était, dans l'équipe de Jadot, de rappeler que l'urgence écologique est importante, de ne pas se trahir et de dire, et moi, je ne suis pas Europe Écologie et Vert sur les questions sociétales. Et d'avoir cette liberté intérieure et cette humilité pour dire, bah voilà, je suis là en tant qu'homme libre, mais j'ai bien conscience que mon engagement n'est pas parfait. Et le vote est pareil, en fait. Et donc, je ne supporte plus d'entendre les gens me dire, mais qu'ils refusent d'entendre les défauts de leur candidat, comme si ça allait les sauver. Non! Bah, j'ai voté pour lui.
Alors,
c'est pas parfait.
Puisque vous parlez de vote de candidat, vous avez quand même, Clotilde de Brossolette, aussi une expérience intéressante, puisque vous accompagnez des élus de candidats essentiellement dans les élections municipales. Qu'est-ce que vous avez appris lors de ces accompagnements auprès de ces futurs candidats
Je crois que la première chose que j'ai
de
apprise
ces hommes,
vraiment,
hein,
de ces hommes et de ces femmes, c'est la qualité immense du service rendu. Et la profondeur de l'engagement. Je crois que l'engagement local est aujourd'hui un engagement où cela peut véritablement s'exprimer, où en fait on peut retrouver le sens réel de l'engagement politique. À l'échelle nationale, il y a vraiment toute cette logique des partis politiques qui en plus sont en train, les partis politiques s'effondrant, ils deviennent extrêmement coercitifs. Hein, c'est la philosophe Simone Veil qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, fait une note sur la suppression générale des partis politiques, parce qu'elle explique que c'est, les partis politiques sont l'archétype de la structure de péché, puisqu'ils ne sont là que pour se renouveler et survivre. Leur objectif, c'est leur propre survie. Et donc, ils tuent les idées. Alors qu'à l'échelle locale, en dehors des grandes villes, ce qui va compter, c'est le bien commun, c'est le bon sens, c'est la réalité, en fait. C'est l'expérience et la décision fondée sur une réalité. C'est véritablement la pensée de Gustave Thibon. C'est le réel au service de la pensée. Et donc, de l'action pour un engagement politique. Donc, moi, je suis... impressionné par la difficulté que vivent les élus locaux aujourd'hui. On le voit, hein, pour les prochaines élections municipales, on estime que c'est à peu près la moitié des maires qui ne veulent pas se représenter, tant c'est difficile. La violence de nos sociétés est très présente à cette échelle-là, parce que quand vous êtes maire et que vous avez une difficulté, c'est pas sur les réseaux sociaux comme les députés que vous êtes attaqués, c'est véritablement dans la rue. Mais c'est là aussi où il y a toute la beauté de cet engagement, parce que c'est un service d'homme à homme à hauteur des yeux. Et donc quand vous avez failli, vous le voyez tout de suite. Quand vous avez réussi, vous le voyez aussi tout de suite. Et c'est pas anodin si c'est quand même l'échelon politique pour lequel les Français gardent le plus de respect et de confiance.
Il y a eu aussi l'événement il y a plusieurs semaines de Naël, et je crois que vous êtes géographiquement à 300 mètres. Donc c'est votre vie, c'est votre cité, c'est votre paroisse, c'est votre communauté. Vous avez été touché directement. Comment vous avez traversé cet événement qui a été médiatisé et national ?
Alors oui, Naël est mort à 300 mètres de chez nous. Alors moi, je n'habite pas dans la cité, mais ma paroisse... et au cœur d'une, voilà, vraiment en bordure d'une cité de Nanterre, une cité relativement calme et très difficile, et avec une violence sous-jacente liée à la drogue, et plus à la drogue et même qu'à l'islam radical, mais quand même les deux sont présents. Et moi, j'ai, avec mon mari, on a été assez vite, on a été terrifiés quand on a vu l'ampleur de la violence qui s'est dégagée si vite là, ce déploiement de violence. Faut quand même le reconnaître, en quelques jours, en moins d'une semaine, les dégâts sont aussi importants qu'en 3 semaines, voire voilà, 4 semaines, hein, 2005, des émeutes de 2005. Nous restons inquiets parce que rien ne présupposait que ça retombe aussi vite. Et ce retour au calme n'est pas naturel. Je pense qu'il est profondément naturel. Et je pense qu'un peu comme un feu de forêt qui couve par les racines, la situation n'est pas réglée. Et c'est pas le déploiement de forces policières qui a permis de ramener dans ces quartiers difficiles la paix de façon profonde. En fait, ça reste un rapport de force qui s'exerce. Moi, j'ai été marquée parce que j'ai vu la violence. Et je n'ai aucune excuse à apporter à cette violence. J'ai déjà débattu sur ce sujet. Ces jeunes qui sont descendus dans la rue, je refuse d'entendre leurs cris. La victimisation m'est insupportable, parce que ces jeunes sont une minorité. Alors, évidemment, il y a des effets d'entraînement, des plus jeunes qui sont embarqués. Voilà, je ne suis pas du tout naïve hein, sur le fait que... Voilà, mais ces jeunes ont brûlé des voitures de gens que je connais, de gens qui en ont besoin pour aller travailler. Et ces gens-là souffrent en silence. Et du coup, je peux... Moi, je ne veux plus entendre que c'est des jeunes qui ont été méprisés. Il y a beaucoup d'argent public qui a été déversé dans ces quartiers. Je crois qu'en fait, c'est l'échec d'un pacte, je qualifierais même pas de républicain, mais d'un pacte social. Dans ces quartiers, aujourd'hui, les règles de la vie sociale ne sont plus exactement les mêmes que pour le reste. Mais ces règles, elles s'imposent à des gens qui voudraient vivre selon les règles d'impact social comme celui que moi dont je bénéficie. Et je trouve qu'il y a, de ce point de vue-là, un silence absolument infernal pour ceux qui souffrent de la violence exercée par une minorité.
Ils sont nombreux à subir.
Exactement.
Nous sommes à subir. Clotilde Brossolette, je vous propose de vous retrouver dès demain dans cette même émission. Je rappelle qu'on peut aussi vous découvrir et lire votre premier livre. Je crois que vous avez peut-être un deuxième ouvrage en perspective.
Oui, en projet, mais il s'appelle long. Hein.
Donc, on peut lire ce livre paru aux éditions MAM, catholique de tous les partis. Hein, catholique de tous les partis, engagez-vous. Voilà, un livre à découvrir. À demain, même lieu, même heure. Et merci.